un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume, un jour dans l'histoire ne va pas faire escale sur un événement ou une période particulière de notre histoire. Je vous propose en effet aujourd'hui de vous arrêter sur l'œuvre d'un homme, d'un historien, celle de Jean-Christian Petit-Fils. Jean-Christian Petit-Fils vient en effet de recevoir le prix Charles Aubert, prix de l'Académie des sciences morales et politiques, un prix récompensant chaque année un juriste ou un historien, donc pour son œuvre ou bien une association liée à ces deux disciplines. Jean-Christian Petit-Fils, bonjour.
Bonjour.
Nous allons découvrir avec vous, ou redécouvrir l'Ancien Régime, mais aussi l'histoire contemporaine, puisque nos auditeurs ne le savent peut-être pas, vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages traitant des idées politiques au XIXe et au XXe siècle. Nous allons revenir sur votre parcours d'historien, d'auteur, mais aussi sur votre parcours personnel. Alors, vous venez de publier chez Timet Éditions un ouvrage pédagogique, un ouvrage richement illustré, Versailles, la passion de Louis XIV. Ce livre vient, après beaucoup d'autres, paru principalement chez Perrin. Il y eut en 2005 votre biographie magistrale de Louis XVI, mais aussi chez le même éditeur Perrin, dans la collection de poche, la collection Tempus. Je citerai Fouquet, le masque de fer, ou bien encore votre Louis XIV, primé par l'Académie française. Alors, avant d'aborder votre œuvre, Jean-Christian Petit-Fils, permettez-moi de vous poser quelques questions sur votre parcours personnel. Quelles sont vos origines, tout d'abord, et surtout, est-ce que ces origines ont motivé votre vocation d'historien ?
Alors, je dois dire que j'ai toujours eu une passion pour l'histoire, que c'est une passion qui vient de ma famille, très certainement. Mon grand-père et mon petit-fils s'occupaient de recherches archéologiques dans la région dont il était issu, qui est les Ardennes. Il a été député des Ardennes pendant deux législatures. Et il se passionnait donc pour ses recherches et découvertes, les travaux gallo-romains qui sont sur les plateaux de Charleville. Il a écrit un certain nombre d'articles. Et puis, mon père aussi, lui-même, était passionné par l'histoire. Alors lui, c'était plutôt l'histoire littéraire, puisqu'il a écrit différents ouvrages sur Arthur Rimbaud, qui était sa grande spécialité, donc étant lui-même originaire de Charleville, Paul Verlaine, Gérard de Nerval, etc. Donc j'ai été imprégné dès la tendre enfance par ce goût de la recherche, ce goût de l'histoire, ce goût des archives et du travail d'écriture.
Vous avez beaucoup lu très vite ?
Alors, très vite, j'ai beaucoup lu. J'ai lu, bien sûr, Alexandre Dumas, qui m'a conduit, je dois l'avouer, à l'histoire, qui m'a passionné, et notamment tout le cycle des mousquetaires sur l'Ancien Régime, le collier de la Reine, Joseph Balsamo, etc. Et donc, là, cette rencontre avec cette histoire très, très vivante, romanesque, déformée, bien entendu, m'a incité à faire des études d'histoire. Alors, j'ai une approche, si vous voulez, j'ai fait des études très, très éclectiques, puisque j'ai fait une formation de juriste, une maîtrise de droit. J'ai également fait Sciences Po à Paris, des études de gestion d'entreprise à l'IAE, et puis à côté, j'ai poursuivi donc l'ancienne licence d'histoire-géographie qu'on faisait en quatre certificats avant la réforme de Perfit et même peut-être avant la réforme Fouché. Vous voyez, donc ça remonte très très loin, dans les années 67-68, et là, ça a été vraiment aussi une passion. J'ai appris le métier d'historien avec, bien sûr, ces études d'histoire à la Sorbonne, et puis un doctorat d'État de sciences politiques sous la direction de Jean-Jacques Chevalier, où là aussi j'ai choisi un thème purement historique, une analyse d'histoire des idées politiques.
Je reviens peut-être à vos années d'adolescence. Est-ce que vous parliez de déformation tout à l'heure en évoquant Dumas, déformation de l'histoire? Est-ce que vous avez conscience de cette déformation à l'époque? Est-ce que vous faisiez la différence, oui, entre vérité historique telle qu'elle pouvait être exposée dans vos cours d'histoire au collège puis ensuite au lycée et telle que l'histoire était présentée dans les livres d'Alexandre Dumas?
Bien entendu, dès le départ, par exemple, la lecture des Trois Mousquetaires et puis surtout du Vicomte de Bragelonne, qui est le dernier de la trilogie, m'ont conduit à travailler la personnalité de D'Artagnan, par exemple. Alors, le véritable D'Artagnan, c'est un livre que j'ai écrit en 1981, mais j'ai mis des années et des années, et dans ma jeunesse, ce personnage de D'Artagnan m'intéressait. Et ce qui m'intéressait, c'était pas tellement le D'Artagnan de Dumas que le véritable D'Artagnan, celui qui est mort au siège de Maastricht, qui a arrêté Nicolas Fouquet, qui a participé aux grandes guerres du début du règne de Louis XIV, qui était l'agent de Mazarin. Voilà, là, ce personnage, j'ai cherché à le creuser à travers des livres d'histoire, et puis ultérieurement, d'ailleurs, dans des recherches d'archives, puisque j'ai fait mon service militaire au service historique de l'armée, et c'est là où, sur ce personnage de D'Artagnan, j'ai trouvé des lettres inédites, des correspondances. Donc, vous voyez, Dumas était l'élément déclencheur, mais, bien entendu, j'avais conscience, pas totalement, bien sûr, parce qu'on se laisse bercer, imprégner complètement par la musique dumasienne, qui est une musique qui n'est pas véritablement, pour parler de l'Ancien Régime, qui ne restitue pas exactement l'atmosphère, mais on est imprégné de 19e avec Dumas, nécessairement. Bon, le simple fait de se plonger dans cette atmosphère vous conduit à rechercher l'authenticité des choses. Et ça a toujours été mon souci.
Il y a une question, vous le savez, dans les 5 minutes de Clio que je pose régulièrement, c'est de savoir quel est votre livre d'histoire de jeunesse. Là, j'ai envie de poser une autre question. Quel est le premier document historique que vous avez eu entre les mains et qui vous a fait prendre conscience de l'importance des sources en histoire ?
Alors, je dois dire que je n'ai pas souvenir du premier document. On parlait de D'Artagnan, de ce personnage. J'ai lu, par exemple, un livre sur la véritable histoire de D'Artagnan, qui était le livre de Charles Samaran, qui était un membre de l'Institut, un personnage éminent, qui a été directeur des archives. Et c'est un livre qui m'a passionné. Alors, j'ai aussi, dans mes passions de jeunesse, évidemment, une grande passion pour l'homme au masque de fer. J'ai écrit aussi, là, 2 livres sur ce masque de fer. Mon premier article d'histoire, qui est sorti dans une revue, qui était une revue assez prestigieuse à l'époque, qui était le Mercure de France. Je l'ai écrit à l'âge de 15 ans, en 1960. Donc voilà, il y a plus de 45 ans maintenant. J'avais déjà une explication nouvelle à cette énigme. Avec mes parents, avec mes amis, je parcourais les quais à la recherche de livres d'histoire. Et jusqu'à ce que, bien sûr, après, je puisse accéder aux archives, à la Bibliothèque nationale. Je me souviens même, tout jeune, que mon père faisant des recherches à la Bibliothèque nationale, je le chargeais pour mon compte, puisque j'avais pas encore l'âge d'avoir une carte d'accès, de faire des recherches sur ces sujets qui me passionnaient.
Alors, vous évoquiez le masque de fer, il s'agit de votre premier ouvrage. Cette histoire relève un peu, si vous me permettez l'expression, la petite histoire. Est-ce que l'histoire politique, la grande histoire politique, telle que vous allez la développer à travers votre biographie de Louis XVI, de Louis XIV, de Fouquet, vous intéressez moins à l'époque? Est-ce que finalement vous n'étiez pas marqué par ce fameux Dumas et par tous ces mythes historiques et ces légendes historiques telles qu'elles ont pu être développées au cours du XIXe siècle?
Non, parce que le goût de l'histoire politique m'est venu à Sciences Po. Et en même temps aussi, en faisant mes études d'histoire. Donc, ces choses se sont, en fait, il y a différents fils qui sont, finalement, se sont retrouvés. Et je dirais, se sont retrouvés dans le Louis XIV. Auparavant, j'ai écrit un certain nombre de biographies, de personnages du XVIIe siècle. Madame de Montespan, Mademoiselle de la Vallière. J'ai écrit une étude sur l'affaire des poisons. Et puis, j'ai écrit en parallèle un certain nombre d'ouvrages et d'études politiques sur le 19e, le 20e, des études sur la droite, sur l'extrême droite, c'était des que sais-je, une étude synthétique aussi parue dans la collection que sais-je sur le gaullisme, une étude un peu plus poussée sur les socialismes utopiques, c'était dans la collection L'Historien de Roland Mounier, 2 vies quotidiennes, dont une vie quotidienne des communautés utopistes au 19e siècle, ce rêve fou de construire un monde nouveau en quittant les amarres, en larguant le vieux monde et en l'abandonnant à sa déchéance et en pensant qu'on pouvait créer quelque chose de nouveau, l'homme étant bon par nature, bien entendu, pour les utopistes. Alors voyez, donc tous ces thèmes m'ont travaillé, ces thèmes politiques, et puis en parallèle à des études biographiques plus classiques. Et tout ça s'est retrouvé dans le Louis XIV, parce que là, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu nouveau, au moins en ce qui me concerne, disons, c'est dans le cadre d'une biographie classique, essayer d'approcher la nouvelle histoire politique, ce qu'on a appelé la nouvelle histoire politique. Bon, c'était il y a 10 ans, j'ai commencé en 1990, il est sorti en 1995. la nouvelle histoire politique. On était encore resté un peu prisonnier du schéma ancien, qui a toute sa valeur, bien entendu, de l'école des annales, l'histoire des mentalités, l'histoire économique et sociale. Mais le politique était un peu laissé de côté. Peu étaient les historiens, notamment en France, parce que dans les pays anglo-saxons, c'est tout à fait différent. Il y a une approche sociopolitique avec laquelle je me sens parfaitement en phase. Donc, dans ce week-end, j'ai voulu, dans le cadre d'une biographie classique, essayer de développer ces thèmes d'une nouvelle histoire politique. Alors, qu'est-ce que c'est que la nouvelle histoire politique? On peut d'abord définir par ce qu'elle n'est pas, parce que c'est peut-être plus facile. C'est pas une histoire événementielle. C'est pas non plus une histoire purement institutionnelle. C'est pas une histoire des idées politiques. C'est une histoire sociopolitique qui permet de comprendre les grandes forces qui servent de soubassement à la société et nous permettent de comprendre comment cette société a évolué. L'exemple est simple, c'est comment s'est construit l'absolutisme? Comment fonctionne la société d'Ancien Régime? C'est une société qui n'a pas un État et des institutions parfaitement définies, parfaitement au rouage, bien stabilisées. Donc, ce qui compte, ce sont les liens personnels, les liens de clientèle. Et l'existence de clans, notamment autour des grands personnages. La lutte de Richelieu contre les grands, c'est une lutte du clan Richelieu contre les clans des grands. Donc cet aspect de science politique de l'Ancien Régime, comme disait Emmanuel Leroy-Ladurie, voilà ce qui m'a intéressé, les différentes étapes donc de la construction de l'absolutisme, étant d'abord le système du ministériat que nous voyons avec Richelieu, avec Mazarin. Ça commence même avec les favoris déjà du temps, au début du règne de Louis XIII, c'est Concini et puis Luynes. Ça s'institutionnalise avec Richelieu et Mazarin. Ce ministériat, eh bien, c'est le roi est en relation directe avec un homme qui tient en main une clientèle, qui tient en main tout un réseau, lequel ce réseau s'oppose bien sûr aux autres réseaux des grands et essaye de ramener l'ordre au sein du royaume. La deuxième étape, c'est la révolution de 1661. C'est Louis XIV qui prend le pouvoir et qui va partager le pouvoir, donc ne plus avoir un seul Premier ministre qui dit « je n'aurai plus de Premier ministre », qui le répète en faisant arrêter Fouquet en septembre 1661 et qui va s'appuyer sur deux clans, le clan Colbert et puis le clan Letellier, Letellier Louvois, et va jouer sur la rivalité de ses clientèles. Parce que le roi lui-même n'a pas le moyen, n'a pas d'administration, n'a pas le moyen de lancer un vaste filet pour tenir la France, qui est une société de corps, d'ordre, une société inégalitaire, hiérarchisée. Il faut surtout pas avoir l'idée d'une société telle que nous connaissons aujourd'hui. Les choses sont beaucoup plus complexes que cela.
Alors, vous nous emmenez directement, je vous ai laissé partir vers une de vos œuvres majeures, le Louis XIV, mais je souhaite revenir quand même sur votre formation. C'est ce que nous verrons après une première pause. À tout de suite. Nous reprenons le cours de notre émission. Un jour dans l'histoire reçoit Jean-Christian Petit-Fils qui vient de publier chez Timet Éditions Versailles, la passion de Louis XIV. Jean-Christian Petit-Fils, vous venez de recevoir un prix, le prix Charles Aubert, un prix de l'Académie des sciences morales et politiques qui vous a été donné pour l'ensemble de votre œuvre. Cette émission est donc consacrée à votre parcours d'historien et il y a un point que vous n'avez pas évoqué, ce sont vos professeurs. Et je pense que dans le parcours d'un historien, que ce soit à Sciences Po ou ailleurs, puisque vous êtes passé par Sciences Po, est-ce que vous avez été marqué par tel ou tel professeur ou bien est-ce que dans vos lectures, vous avez eu tout simplement des maîtres et quelle est votre opinion sur ces maîtres ?
Alors, bien sûr que j'ai eu beaucoup de maîtres. En études d'histoire, j'ai eu Pierre Goubert, Roland Mounier, ça c'est pour le XVIIe siècle, Louis Girard pour le XIXe, Victor Lucien Tapier pour le XVIIe. Donc, quantité de maîtres. Bien sûr, René Raymond sur le plan des idées politiques. Au XVIIe, pour revenir au XVIIe, et même au XVIe, Arlette Joanna, elle est un des historiens, une des historiennes qui s'occupe de l'histoire l'histoire, la nouvelle histoire politique dans la lignée des anglo-saxons et nous montre ces mécanismes de clans, de clientèle dans la formation de l'État moderne au tournant du XVIe et du XVIIe siècle. René Pirlorget, Yves-Marie Berset, voilà, donc ce sont des grands noms d'historiens qui m'ont formé, que j'ai lu, dont j'ai lu les œuvres. Et puis il y a aussi les anglo-saxons qui m'ont beaucoup intéressé.
William Beck. C'est un point majeur de votre œuvre.
Oui.
C'est-à-dire que vous lisez énormément de livres étrangers, et ma foi, c'est le conseil que l'on pourrait donner aux jeunes historiens, c'est de ne pas avoir un regard franco-centriste et d'aller dans les bibliothèques étrangères et de commander des livres à l'étranger.
Oui, je pense que l'école anglo-saxonne est une très bonne école qui a une approche, encore une fois, très politique. Ils ont fait beaucoup moins de recherches sur le plan économique, socio-économique que l'école française, mais leur point de vue est tout à fait intéressant et, à mon avis, très complémentaire de l'historiographie française. Le malheur de l'historiographie française, c'est que elle n'a pas été assez ouverte. Alors, les choses ont beaucoup évolué depuis 15 ans, à peu près, 15-20 ans. Il y a toute une jeune génération d'historiens qui ont parfaitement intégré tous les mécanismes de cette nouvelle histoire, histoire politique en particulier. Là, les choses ont très largement évolué, mais pendant des années, les historiens ne lisaient pas les ouvrages des historiens anglo-saxons. Il y avait peu d'originalité dans leurs travaux.
Alors, quand on regarde la liste de votre œuvre, on pourrait diviser en deux types d'ouvrages, ce qui concerne l'Ancien Régime, le XVIIe et le XVIIIe, mais également l'histoire contemporaine que vous n'avez plus abordée, je crois, depuis votre ouvrage, un troisième que sais-je, en 1995, l'extrême droite en France.
Qui était une réédition d'un ouvrage
qui
plus ancien.
Qui était une réédition. Ce sont les idées qui mènent le monde, Jean-Christian Petit-Fils. Et d'où vient, encore une fois, cette passion pour les idées politiques? C'est Sciences Po qui vous l'a donné?
Ah oui, oui, absolument. Mais je pense qu'il faut ne pas rester cantonné trop dans l'histoire des idées. Moi, j'ai été longtemps aussi passionné par cette histoire des idées. Les idées politiques, elles ont une très grande importance, mais il faut aussi tenir compte des forces sociales, des forces politiques, des forces économiques. Et c'est pas tombé, bien entendu, dans une lecture marxiste de l'histoire que j'invite les auditeurs. C'est comprendre que l'idée pure en politique n'existe pas. Donc il y a des groupes et des forces sociales. Et bien entendu, il y a des familles politiques. Bien entendu, l'analyse de ces constantes, les constantes de la droite, les grandes constantes de la gauche, ou les droites, les gauches, tout cela est fort intéressant et nous permet de comprendre bien des choses. Il ne faut pas non plus sous-estimer les évolutions sociologiques. Ça va de soi, l'évolution de la société française. La société française de 1914 n'a rien à voir avec la société française d'aujourd'hui. Et malgré la permanence de certains thèmes et de certains courants, même la permanence de certains partis.
Vous avez étudié un peu toutes les composantes. Vous avez étudié l'extrême droite, la droite, le gaullisme, le giscardisme, la gauche...
Les utopiques.
Quels sont les éléments qui vous ont amené à choisir tel ou tel sujet?
C'est une affinité, disons, affinité avec un sujet, et c'est une bonne connaissance déjà de ce sujet. J'aurais eu du mal, par exemple, à parler du Parti communiste. Le monde communiste m'est assez étranger.
Alors, vous avez contrebalancé en quelque sorte votre opinion sur ces questions politiques en abordant la vie quotidienne, et la première vie quotidienne sur laquelle vous travaillez, c'est la vie quotidienne à la Bastille. Et la Bastille est liée, bien évidemment, au Masque de fer.
Bien sûr, mais c'est le Masque de fer qui m'a conduit à la Bastille, si je puis dire. Alors là, j'ai fait des recherches sur les archives de la Bastille, qui sont conservées toujours à l'Arsenal. Ces archives de la Bastille, vous savez comment elles ont été découvertes. Ça s'est passé vers 1850, au moment où un jeune archiviste, François Ravesson, avait été nommé conservateur de l'Arsenal. On lui avait affecté un petit logement et il avait entrepris des travaux de rénovation de sa cuisine. Et puis on a soulevé les carreaux de la cuisine, qui étaient des carreaux fort vétustes. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait des papiers, des liasses, et on a commencé à regarder. Et c'était ces fameuses archives de la Bastille qu'on avait perdues, on savait plus où elles étaient. Alors une partie était partie à Saint-Pétersbourg, avait été au moment de la prise de la forteresse. On a acheté les papiers dans les fossés, des gens se sont précipités pour les ramasser, et on a essayé quand même de les regrouper, de les rassembler. Il y a eu des instructions de l'Assemblée nationale. Et puis, je ne sais plus à quelle occasion, ces archives ont disparu, et c'est seulement au milieu du 19e siècle qu'on les a retrouvées. Alors elles ont été classées, inventoriées. Elles ont été publiées en grande partie, pas totalement d'ailleurs, mais en bonne partie par François Ravaisson, dans une très belle collection des archives de la Bastille. Et c'est ces archives et cette collection de François Ravaisson qui m'ont aidé à écrire ce petit livre sur la vie quotidienne à la Bastille.
Alors, autre pan de la société, à travers l'affaire des poisons, que vous avez étudié. Vous étudiez en fait le monde des alchimistes et des sorciers au XVIIe siècle. Vraiment, après s'être concentré sur l'histoire politique, vraiment vous passez d'un extrême à l'autre. Vous passez de la politique à la vie de tous les jours et de cette société du XVIIe siècle.
Alors ça, c'est la face cachée du XVIIe siècle. Nous avons Versailles, la passion de Louis XIV d'un côté, la grandeur, la splendeur, le luxe, la société de cour, ce qu'on a appelé la domestication des grands, sur lequel il y aurait beaucoup à dire. Et puis, le côté sordide de ce siècle qui est pourtant le siècle de Pascal, le siècle de Descartes, où les croyances anciennes, croyances en la sorcellerie, en l'alchimie, subsistent. Et là, à travers les archives de la Bastille, encore une fois, j'ai voulu explorer ce monde assez noir, assez sombre. Et puis aussi, tenter de résoudre une énigme historique, une autre énigme historique du XVIIe, c'est le degré de culpabilité de Madame de Montespan, la favorite du roi. A-t-elle, oui ou non, fréquenté l'antre de ses sorcières, de ses alchimistes? S'est-elle fait dire des messes noires sur son corps? A-t-elle participé à des sacrifices d'enfants? Il y a des horreurs et il y a eu des accusations qui ont été lancées contre elle. Là aussi, on se trouve dans des situations très compliquées où des accusés peuvent avoir aussi intérêt à appliquer des grands du royaume.
Et vous démêlez ces accusations?
En partie, il reste quand même des zones de mystère, mais en partie, on peut comprendre certaines des accusations. Il y a une grande partie, à mon avis, qui a été inventée, mais ça, on voit les mécanismes. Regardez aujourd'hui ce qui s'est passé pour l'affaire Allègre, par exemple, la façon dont on a impliqué des ministres, des hommes politiques dans des scandales, alors qu'ils n'étaient pas coupables. Je pense qu'on a voulu impliquer Madame de Montespan dans ces affaires. Il reste que quand même, on a des éléments de preuve de sa participation à certaines cérémonies magiques avec des sorciers, des sorcières, avec notamment la voisine et son complice, le sage, de sorte que on ne sait pas très bien quel est le degré de noirceur de la favorite. Il reste quand même des quelques zones d'ombre sur ce point-là. Je suis parvenu à prouver, par exemple, qu'elle n'avait pas voulu empoisonner Louis XIV ni la nouvelle favorite, Mademoiselle de Fontanges, pour des raisons chronologiques. On s'aperçoit qu'à un moment donné où il y a un complot contre la vie de Mademoiselle de Fontanges, Madame de Montespan n'est pas au courant que cette jeune personne est devenue la maîtresse du roi. Donc, manifestement, c'est pas possible. C'est une enquête policière, en fait, que j'ai
essayé de... Exactement, comme le
masque
de
fer.
Et je renvoie nos auditeurs à notre émission sur le masque de fer, réalisée en votre compagnie. Je m'arrête quelques instants précisément sur votre méthode. Vous avez vraiment, dans vos ouvrages, le souci du détail, sans sacrifier les idées générales, et dans le respect des sources. Vous utilisez énormément les sources. Existe-t-il, Jean-Christian Petit-Fils, c'est une question hautement difficile, une vérité historique, ou existe-t-il autant d'histoires qu'il y a d'historiens?
C'est une très vaste
question. Débat philosophique.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut avoir une volonté d'approche qui soit scientifique. L'histoire anecdotique a ses limites. On peut l'utiliser à condition que les anecdotes soient vraies, soient vérifiées ou vérifiables. Mais il faut tout de même faire un travail sérieux. L'histoire permet de comprendre la société contemporaine, c'est une évidence. Elle permet aussi de la relativiser, de relativiser les crises, les drames que nous pouvons vivre. Il faut voir que la capacité d'adaptation des hommes est extraordinaire et que finalement, aujourd'hui, c'est plutôt la fragilité psychologique des foules et de l'opinion plutôt que l'ampleur de certaines difficultés qu'il faudrait souligner. Alors, dans le métier d'historien, donc il faut éviter évidemment la compilation, éviter la répétition, et les historiens ont trop tendance, malheureusement, à se recopier les uns les autres, non pas par souci de toujours de facilité, mais parce qu'ils sont persuadés que ce qu'un auteur antérieur a dit est vrai, eh bien, ils auront tendance à le répéter sans aller voir la source, et c'est comme ça que j'ai pu débusquer un certain nombre de choses, notamment dans mon Louis XVI, des fantasmes, des histoires inventées, qui se répétaient de livre en livre, notamment sur le père de Louis XVI, sur Louis Ferdinand, qu'on accusait de débauche à partir d'une lettre écrite par son épouse Marie-Joseph de Saxe. Le texte même de cette correspondance avait une résonance politique, et non pas morale. On en avait conclu plutôt que Louis Ferdinand, père de Louis XVI, tout en jouant les prudes et les hommes vertueux, se débauchaient avec des prostituées. En réalité, c'était des agents de Saxe qui venaient le voir le matin. Mais la façon dont était écrite cette lettre pouvait prêter à confusion. Alors, tous les historiens sont tombés dans le travers de se répéter en disant, regardez, ce père de Louis XVI, quel étrange personnage, qui joue les vertueux et les hommes très pieux et dévots, et puis par derrière, se mène une vie de débauche. Voilà un exemple, mais il y en a quantité d'autres où il faut descendre dans le détail et comprendre les choses, la réalité des choses.
Votre démarche donc vise à lutter contre les idées reçues, les oublis de la mémoire, en restaurant littéralement l'histoire et une histoire scientifique.
Une histoire scientifique, donc par un travail de documentation. Alors, les archives, évidemment, il faut les utiliser à bon escient. Quand vous écrivez une synthèse de 1000 pages sur le règne de Louis XVI ou sur le règne de Louis XIV, vous ne pouvez pas faire des descentes en profondeur dans les archives. Sinon, il faut passer 25 ans ou 30 ans de sa vie sur le sujet et essayer de trouver des choses nouvelles. On ne peut pas trouver, en particulier pour le XVIIe, mais c'est vrai aussi pour le XVIIIe ou le XIXe, on ne peut pas trouver des correspondances, des documents inédits qui apportent des grandes révélations. Par contre, quand vous étudiez un sujet beaucoup plus pointu, beaucoup plus précis, donc c'était l'affaire du masque de fer, l'affaire de Fouquet, notamment Nicolas Fouquet, j'ai fait beaucoup de recherches d'archives sur les propriétés de Fouquet, sur le procès Fouquet, sur la façon dont, sur le plan financier, il gérait ses affaires. Alors là, il faut faire des descentes dans les archives, là, il faut creuser, comprendre les mécanismes, parce que on est au cœur même de son sujet. Quand vous avez un sujet de synthèse, non, on ne peut pas le faire.
Jean-Christian Petit-Fils, nous nous retrouvons dans un instant.
Vous écoutez Canal Académie.
Je reçois Jean-Christian Petit-Fils, auteur de nombreux ouvrages sur l'Ancien Régime. Jean-Christian Petit-Fils, vous venez de recevoir le prix Charles Aubert de l'Académie des sciences morales et politiques et vous venez de publier dernièrement Versailles, la passion de Louis XIV, publié chez Timet Édition. Alors nous évoquions le métier d'historien. Peut-être une dernière question sur l'histoire contemporaine et l'histoire de l'Ancien Régime. Cela fait plusieurs années que vous n'avez pas abordé l'histoire contemporaine. Pensez-vous un jour revenir à notre époque, en tous les cas au XXe siècle ou à la fin du XIXe siècle?
Je ne sais pas.
Passons à votre grande biographie de Louis XIV. On parle beaucoup de Louis XIV en ce moment. Le Figaro vient de publier une nouvelle collection sur les grands monuments français. Le numéro 1 est consacré au château de Versailles. Vous le trouvez dans tous les kiosques. Valeurs Actuelles faisait la une également sur le château de Versailles. Le Point, du 22 décembre 2005, faisait sa une aussi sur Louis XIV. Comment expliquer, Jean-Christian Petit-Fils, cet engouement? C'est le fruit de l'amour de l'histoire? On parle beaucoup de l'histoire, on parle beaucoup du devoir de mémoire. Ou bien est-ce peut-être du fait de la situation de crise dont on parle également beaucoup de nos jours, un rappel de ce que fut la France?
Alors c'est certainement tout cela mêlé. Je pense qu'il y a une passion d'histoire qui réapparaît en France, en effet. Il y a eu aussi un manque de formation historique des jeunes élèves. Aujourd'hui encore, je n'ai pas l'impression que l'enseignement de l'histoire se fasse de façon très satisfaisante, de mon point de vue. C'est pas pour remettre en cause la bonne volonté des professeurs, mais je pense que les programmes restent encore, à mon avis, très critiquables, très imprégnés de cette volonté de ne pas faire d'approche chronologique, en particulier. C'est tout à fait critiquable quand on est un jeune élève, voire un jeune étudiant, d'enseigner l'histoire par thème, par grand sujet, sans comprendre le déroulement chronologique. L'ancienne génération a été formée à la chronologie et je pense que c'est quand même capital. C'est à partir de la chronologie qu'on peut accrocher les idées, qu'on peut accrocher les mouvements. Sinon, ça conduit à un anachronisme constant, à un mélange qui est difficilement compatible avec l'approche et la vérité. vérité historique.
Nous restaurons la méthode syllabique, peut-être que nous allons restaurer l'histoire chronologique.
Voilà, voilà, voilà. On va supprimer la méthode globale en histoire, ça serait peut-être pas mal.
Alors, vous avez publié une biographie du Roi Soleil chez Perrin. Ce livre a remporté le prix de la biographie historique de l'Académie française. C'est un livre qui a été salué par la profession, par la plume de Pierre Goubert, qui fait partie de vos maîtres en histoire, vous le disiez tout à l'heure. Vous considérez votre ouvrage, Jean-Christian Petit-Fils, comme s'inscrivant dans le renouveau du genre biographique ?
Oui, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. J'ai essayé, au-delà de l'analyse de la personnalité de Louis XIV, au-delà de l'approche psychologique, j'ai essayé de comprendre en profondeur ce qu'était ce royaume de France, quels étaient les moyens d'action dont disposait le roi pour accomplir sa politique de grandeur, sa politique de centralisation, qui sur lesquelles d'ailleurs on peut discuter, qu'on peut même remettre en cause. Certains historiens anglo-saxons ont contesté la volonté du roi de centraliser le royaume. Ce qui m'intéresse, c'est les moyens, l'information, par exemple, comment parvient l'information sur le bureau du roi.
Vous vous intéressez aux structures, en fait, de la société.
Ça permet de comprendre tout ça dans le cadre d'une biographie classique. Un exemple, la révocation de l'édit de Nantes. Alors, bon, révocation d'édit de Nantes, indépendamment du problème moral profondément choquant qu'a constitué cette interdiction d'une religion en France. Comment le roi a été informé? Que savait-il réellement au moment où il a pris cette décision en 1685? Ça, c'est très intéressant parce que nous voyons que fonctionnent différents filtres. Il y a les filtres des intendants qui ne donnent que les bonnes nouvelles, qui annoncent les conversions en masse. On néglige ce qu'on appellerait aujourd'hui les bavures, c'est-à-dire les dragonnades. Le roi avait interdit des dragonnades. Il n'y avait pas de violence. Non, il faut par la persuasion, par la douceur, convertir les protestants. Vous avez aussi les jeux des clans et les luttes entre le clan Le Tellier et Louvois d'un côté et le clan Colbert de l'autre vont essayer de mener cette affaire. Donc le roi, finalement, n'a pas les éléments d'information qui lui permettent de prendre une décision saine. Alors sans doute voulait-il en venir à cette décision, mais il a été illusionné parce que les canaux d'information fonctionnent mal. Louis XIV avait lui-même, au sein même de la cour, il ressentait ce besoin d'acquérir une information. Vous savez que les valets de chambre de Louis XIV étaient organisés dans tout un réseau d'informations. Il y avait les valets bleus qui donnaient les informations de la cour, qui faisaient remonter au roi, par l'intermédiaire de Bontemps, qui était le premier des valets de chambre du roi, les informations nécessaires. Or, le roi a besoin d'informations. Parce que dans un système où tout est organisé pour la louange du roi, eh bien, il faut savoir ce qui se passe réellement. Et il n'y a pas d'opposition, il n'y avait pas, évidemment, tous les moyens de communication et médiatiques que nous avons aujourd'hui, où l'information circule à la seconde près. Là, les choses sont beaucoup plus lentes et les nouvelles sont tamisées.
Alors, il y a bien évidemment de multiples sujets que l'on pourrait aborder sur ce Louis XIV. Ce n'est pas une émission qu'il faudrait, mais bien 10. Je m'en tiendrai à votre idée générale sur l'absolutisme. Vous n'êtes pas d'accord avec ce terme d'absolutisme et vous préférez parler de monarchie administrative. Et encore, dites-vous, cette monarchie administrative qui correspondrait à cet absolutisme n'apparaît qu'à la fin du règne, ou en tous les cas dans le dernier tiers du règne.
Oui. L'idée que le roi, en 1661, que le roi ait pris le pouvoir, ce qu'on appelle la prise du pouvoir par Louis XIV, à la mort de Mazarin, et puis au moment de l'arrestation de Fouquet en septembre. Mazarin est mort en mars 1661, Fouquet est arrêté en septembre 1661. On a parlé de révolution, de la révolution de 1661, le changement de l'État. C'était une expression de Michel Antoine, nous montrant qu'on était passé d'un État de justice à un état de finances. Les choses peuvent être plus nuancées. Il reste que c'est vrai de façon générale, c'est-à-dire qu'on est passé d'un état où le personnage principal était le chancelier, dont dépendaient les intendants de province, à un personnage principal qui va être le contrôleur général des finances, et le contrôleur général des finances ayant la nomination des intendants, sauf des intendants des provinces frontières. Donc, on passe d'un état de justice à un état de finances. C'est vrai. Est-ce pour autant que l'administration fonctionne? Il y a 700-800 fonctionnaires, entre guillemets, ce qu'on appelle les commissaires, qui sont révocables à volonté, nommés et révocables à volonté par le roi, qui sont véritablement aux ordres du roi. Alors ce sont les intendants, par exemple, ce sont les conseillers d'État, les maîtres des requêtes, c'est toute l'administration centrale du royaume. Puis le reste, il n'y a pas de fonction publique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle les offices. Alors, être l'office, c'est une dignité rétribuée, c'est une parcelle de la fonction publique qui est vendue et qui est léguée, qui appartient à une famille. C'est un droit patrimonial, c'est un bien patrimonial qu'on peut céder à ses enfants. Depuis 1604, la fameuse Paulette qui permettait de céder, de vendre la vénalité des offices. Bien, donc, à partir du moment où vous êtes propriétaire de votre charge, vous n'avez pas tellement envie d'exécuter la volonté du roi. Donc, ces officiers, qui sont des officiers de justice, de police, de finance, n'ont pas un zèle excessif pour la centralisation monarchique, disons. Ils sont plutôt un frein, tout en étant un élément du système. Ils sont dedans et en même temps, ils sont de dehors. Il y a 45 000 officiers, c'est Colbert qui a fait le calcul, 45 000 ou 47 000, je ne sais plus exactement. Mais c'est tout à fait dérisoire par rapport à une population de 22 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous avons 5 millions de fonctionnaires. Bon, 2 millions et demi de fonctionnaires, 2 millions et demi de parafonctionnaires. Et on se plaint encore que la France soit sous-administrée. Donc, sous Louis XIV, quand on parle d'absolutisme, il faut avoir ces chiffres en tête. 700-800 commissaires, 45 ou 47 000 titulaires d'office, et puis le reste, ce sont des communautés qui s'auto-administrent. Donc, l'absolutisme, sans doute, le roi est absolu en ce sens qu'il n'a pas de compte à rendre, sinon à Dieu, puisqu'on est dans une monarchie chrétienne, et donc le roi se sent redevable devant Dieu de sa politique. Il n'y a pas non plus, et ça c'est ce qui pourrait caractériser cet absolutisme, si on veut véritablement utiliser ce mot, il n'y a pas de représentation de la nation. Depuis 1614, cette vieille institution qui était les états généraux n'ont pas été réunis. Et c'est au fond une des caractéristiques de cette fin de monarchie, c'est l'absence de représentation des peuples. C'est une caractéristique et c'est aussi le drame, parce que le problème c'est que les difficultés, les informations ne remontent pas. Je parlais tout à l'heure de la difficulté de l'information. Là, il n'y a pas de caisse de résonance, il n'y a pas le moyen de faire entendre sa voix quand il y a une crise, quand il y a une situation de détresse, quand il y a une urgence. Tout passe par les canaux du roi. Il n'y a pas cette expression populaire qui existe déjà en Angleterre, au moins depuis la révolution de 1688.
Donc Louis XIV n'est pas le révolutionnaire que l'on dit du XVIIe siècle. Il reste très attaché à la nature du régime.
Alors voilà, Louis XIV n'est pas le grand révolutionnaire comme on l'a présenté. Ça, c'était la thèse de Roland Mounier, dont je suis beaucoup d'analyse, mais sur ce point, je ne suis pas d'accord avec lui. Il a, en fait, utilisé l'ancien système. Il a associé, en grande partie, l'aristocratie, la noblesse à son pouvoir, notamment sur le plan financier, parce que une partie des fonds collectés dans les provinces, une partie seulement remonte à Paris, le reste en fait est partagé entre les différents officiers titulaires d'office que sont souvent les nobles de province. Eh bien, toute une élite aristocratique, toute une élite nobiliaire a été associée au pouvoir du roi. Donc, on n'a pas un système qui a détruit l'ancien régime, qui a détruit cette société de corps et d'ordre. Le roi s'est accommodé. La grande différence avec ce qui se passait avant, c'est qu'il n'y a plus de favoris, qu'il n'y a plus de premier ministre. Ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux aristocrates, à la haute aristocratie en particulier. Ce qui déplaisait avec Richelieu, ce qui déplaisait avec Mazarin, c'était l'existence de clans du premier ministre, de favoris du premier ministre et d'hommes qui dépendaient de lui et donc recevaient les faveurs au détriment de la haute noblesse. Là, cette fois, la haute noblesse a accès directement au roi, à Versailles. Donc là, elle se domestique, mais en même temps, elle profite des bienfaits du roi, parce qu'elle voit le roi, elle reçoit des pensions, des gratifications, des charges du roi directement. Et là, c'est quelque chose qui plaît. Et dans une certaine mesure, Louis XIV a accompli la réclamation, la revendication de la Fronde, qui voulait justement la suppression du ministériat.
Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage Louis XIV, réédité dans la collection de poche des éditions Perrin, la collection Tempus. Jean-Christian Petit-Fils, nous retrouvons après cette dernière pause. À tout de suite.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.
Thank you.
Nous entamons la dernière partie de notre émission consacrée à l'œuvre de Jean-Christian Petit-Fils. Jean-Christian Petit-Fils, vous venez de recevoir un prix de l'Académie des sciences morales et politiques et vous venez de publier tout dernièrement un ouvrage très pédagogique, fortement illustré, consacré à Versailles, la passion de Louis XIV chez Timet Éditions. Nous passons peu à peu au XVIIIe siècle, Jean-Christian Petit-Fils, mais peut-être un dernier mot sur Louis XIV. Vous ne faites pas une hagiographie, bien évidemment. Vous présentez en fait toutes les zones d'ombre du règne de Louis XIV et vous ne les cachez absolument pas, notamment la guerre.
Oui, les erreurs. Le roi a commis des erreurs, c'est indiscutable. Moi, j'ai une certaine admiration pour le roi. C'est un homme qui avait beaucoup de dignité, le sens de la grandeur. Il a eu ce sens de la grandeur dans les dernières années du règne, en particulier au moment des épreuves, beaucoup plus qu'au moment du soleil éclatant, du triomphe de la peine Nimègue en particulier, au moment de la réalisation de la Galerie des Glaces. Les dernières années sont des années sombres, des années de misère. Il y a des morts en quantité du fait de la famine, en 1692-1693 par exemple. Il y a à peu près 1 300 000 morts par suite des difficultés climatiques. Un été pourri 91-92, 93 donc des difficultés de semailles et donc les provinces qui meurent. On voit, quand on regarde les registres paroissiaux de cette époque, c'est quelque chose de effrayant. On voit mort de faim, quelqu'un trouvé dans un buisson, un inconnu, un vagabond, mort de faim. Bon. C'est donc ce royaume, 1 300 000 morts, c'est autant que la guerre 14, mais dans un pays deux fois moins peuplé. Là, c'est une réalité aussi sociologique et démographique qu'il est très bon de connaître. Ces guerres, cette guerre de la Ligue d'Augsbourg, qu'on appelle la guerre de 9 ans aussi, la guerre de succession d'Espagne, guerres qui sont très dures, qui font de nombreux morts, en particulier des ravages dans l'aristocratie, dans la noblesse. Et le roi, dignement, proposant la paix, proposant même de céder certaines de ses conquêtes, essayant de trouver un terrain d'entente avec des alliés qui sont inflexibles. Et le roi, là, on sent vraiment cette grandeur du roi dans les épreuves. Je ne parle même pas des épreuves personnelles qu'il a eues, avec la mort du grand dauphin, la mort du duc et de la duchesse de Bourgogne, du petit duc de Bretagne, il voit disparaître autour de lui tout son entourage avec grande inquiétude et une grande souffrance.
Alors, je passe au XVIIIe siècle et le trait d'union que vous posez entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, en tous les cas pour la France, c'est dans votre conclusion de votre Louis XIV et on retrouve cette idée tout au long de votre biographie magistrale de Louis XVI. C'est un fait que peu de personnes connaissent, c'est la bulle Unigenitus. Alors qu'est-ce que cette bulle Unigenitus qui a été proclamée par le pape Clément XI et quelles en sont les conséquences sur la France du XVIIIe siècle ?
Alors c'est une des causes, c'est pas la cause principale, c'est une des causes en effet, cette crise du jansénisme, cette condamnation du livre du père Quesnel, renforcée par une bulle qui en fait vont coaguler des forces jusque-là qui n'étaient pas véritablement unis, ce sont les jansénistes et les gallicans qui vont se retrouver unis face aux ultramontains, face aux romains. Cette bulle est assez dure sur le plan de la pratique des chrétiens, elle condamne par exemple les lectures de la Bible en langue française, elle veut vraiment montrer que c'est la hiérarchie qui est autorisée à interpréter les textes, ce qui est vrai en soi, mais il y a une espèce de durcissement de ce catholicisme condamnant les tentatives de modification et les tentatives née du jansénisme. Donc ça va empoisonner tout le règne de Louis XV avec la querelle avec les parlements. Donc là, on voit vraiment ce nouveau jansénisme. C'est pas du tout le jansénisme de Port-Royal que nous voyons naître à ce moment-là. C'est une opposition aussi bien au roi considéré comme un despote, au roi absolu, qu'au pape. Opposition au pape. Tout cela se retrouve bien évidemment dans la Révolution. C'est un des aspects, bien sûr, de la crise du XVIIIe siècle. Un autre aspect essentiel, à mon avis, c'est la crise de l'aristocratie. C'est la réaction aristocratique qui apparaît déjà à la fin du règne de Louis XIV avec les écrits de Fénelon. Et puis qui va se développer tout au long du XVIIIe, qui va prendre de l'ampleur sous la Régence. Là, il y a une volonté de la part de la haute noblesse, des grands, de prendre leur revanche sur ce pouvoir absolu qui a été peu à peu construit par Louis XIV, la monarchie administrative ne naissant, d'après moi, qu'à la mort de Louvois en 1691, mais ne se développant véritablement que dans les dernières années du règne. Là, il y a une volonté de retour en arrière. Il faut retrouver la monarchie d'avant l'absolutisme, donc une monarchie un peu idéalisée, parce que l'absolutisme a toujours existé, dans un certain sens. C'est toujours un pouvoir absolu, c'est-à-dire indépendant du monarque, mais il n'y avait pas cette centralisation que nous voyons apparaître de façon très forte à partir de Richelieu et de Colbert. Là, bien sûr, c'est contre cette tendance à la construction de l'État, d'un État moderne, que les nobles réagissent. Et nous voyons le mouvement des Lumières, dans une large mesure, est imprégné de cette volonté de revenir en arrière, de revenir à un âge d'or antérieur.
Je me permets de vous citer et de revenir à cette bulle malgré tout. Vous dites au long du XVIIIe siècle, c'est dans la conclusion de votre Louis XIV, au long du XVIIIe siècle, ce malencontreux document fera des ravages et provoquera un terrible ébranlement social. À de larges fractions de l'opinion, il fera perdre le respect de la papauté, le sens de la religion et du sacré. Il soudera l'opposition populaire et parlementaire, développera la haine de Rome et des jésuites, confondra avec celle de leur allié, le roi de France. Ce sera un même rejet de la hiérarchie religieuse et de l'ordre monarchique. Et là, on en vient à une des idées développées finalement dans votre Louis XVI. Peu à peu, alors que le roi et la nation ne font qu'un, peu à peu, avec la révolution qui approche, eh bien, ils se séparent. Ils vont se séparer le 21 janvier.
Oui, la dissociation, elle remonte très loin. Elle commence, à mon avis, avec le problème des bâtards de Louis XIV. On se pose la question au moment où Louis XIV, voyant disparaître sa famille légitime, Louis XIV va prendre un certain nombre de dispositions pour légitimer les bâtards et les intégrer dans l'ordre de succession. Ce qui provoque le scandale, vous lisez Saint-Simon par exemple, mais bien entendu, personne n'ose pousser de grands cris, tout le monde est scandalisé intérieurement. Mais les aristocrates, évidemment, considèrent que c'est quelque chose de profondément choquant en soi. Et on se dit, mais au fond, si la dynastie disparaissait, il est tout à fait anormal que les bâtards du roi prennent la suite, ça serait à la nation, de se réunir et de se choisir une nouvelle dynastie. Donc là, on a un problème constitutionnel qui apparaît. Et c'est là, à mon avis, que le tournant de cette nation qui est conçue de façon indépendante du roi. Jusque-là, on avait considéré que le roi était la nation, et Louis XVI lui-même, jusqu'à la fin, le répétera, je ne fais qu'un avec la nation. C'est pas le fameux « l'État, c'est moi » de Louis XIV, que Louis XIV n'a jamais dit. Mais l'idée que le roi fait corps avec la nation, ça, c'est le cœur même de la doctrine monarchique de l'Ancien Régime. Là, nous avons donc une nation qui peut peu à peu va se penser elle-même, va se dissocier de la pensée monarchique. Et tout au long du XVIIIe, on va voir naître cette idée-là. Au moment de la révolution Maupeou, du coup d'État, Louis XV chassant le duc de Choiseul et se débarrassant des parlements en 1771, de décembre 70 et janvier 71. Eh bien, nous voyons apparaître les patriotes, donc ceux qui défendent l'idée d'une nation séparée du roi. Il y a aussi tout un fort courant patriotique qui se développe au moment de la guerre contre l'Angleterre et qui critique la position du roi, critique sur le plan de la politique étrangère le gouvernement. Donc on a au nom de la nation, au nom des intérêts de la nation. Là aussi, la dissociation se fait et bon, comme vous le dites, bien sûr, la séparation, elle se fera physiquement par cette tête tranchée, place de la Révolution, notre place de la Concorde.
Alors, Jean-Christian Petit-Fils, malheureusement, nous arrivons au terme de notre émission. Je renvoie vraiment nos auditeurs à cette émission que nous avons réalisée ensemble sur Louis XVI et les origines de la chute de la monarchie. Je renvoie nos auditeurs également à votre œuvre, parue dans la collection de poche des éditions Perrin, la collection Tempus. Donc, vous retrouvez le Fouquet, le Louis XIV. L'an dernier est paru votre Louis XVI. Et enfin, tout dernièrement, chez Timet Éditions, dans la collection Les 50 plus belles histoires, Versailles, la passion de Louis XIV. Peut-être une dernière question, Jean-Christian Petit-Fils. Quel livre écrivez-vous en ce moment ?
Ah, c'est un secret.
C'est un secret d'éditeur, donc nous le garderons.
Ce sera un livre d'histoire et une biographie historique.
Je vous remercie beaucoup. À très bientôt.